Podcast La Première.
Et tout de suite, Fabienne, vous nous accompagnez pour la seconde partie du forum.
Mais oui, Franceline, nous revoici dans le forum. Je vous le disais en ouvrant l'émission hier, nous avons largement parlé de l'extrême droite à l'occasion du dossier du VIF. Aujourd'hui, je vous propose de réécouter l'entretien que le politologue Pascal Deluit nous avait accordé à l'occasion de la sortie de son dernier ouvrage consacré aux gauches radicales en Europe.
Le forum de Midi Première, Fabienne Vandemersch.
Pascal Deluit, bonjour.
Bonjour.
Je rappelle que vous êtes professeur en sciences politiques à l'ULB et donc auteur de ce livre « Les gauches radicales en Europe du 19e au 21e siècle ». Mais précisément, les mouvements de gauche radicale, les montées de ces mouvements auxquels on assiste depuis quelques années, ces montées vont de pair en réalité avec les montées de droite radicale en Europe.
Oui, ils vont de pair, pas toujours dans le même pays. Et puis, il y a aussi des mouvements de recul parfois. Mais effectivement, on observe depuis un certain nombre d'années, et certainement depuis le milieu des années 2000, d'une part, une montée de l'exacerbation sociale et politique dans certaines sociétés. Et donc, comme vous le soulignez à juste titre, parfois, ça se traduit par une percée de droite radicale ou d'extrême droite, parfois par une percée de gauche radicale, parfois par les deux. La gauche radicale monte plutôt dans les pays du sud de l'Europe, c'est ce qu'on observe en tout cas de manière massive. Hein. On l'a vu bien sûr avec le cas emblématique de Syriza en Grèce ou plus récemment encore le cas de Podemos en Espagne. Mais il y a aussi parfois des percées dans le centre de l'Europe ou dans le nord de l'Europe. Mmh. Hein. Die Linke par exemple qui a obtenu des résultats très probants aux élections de 2009 et de 2013 en Allemagne. Même si, de manière intéressante, aux élections en Mecklembourg-Poméranie, on a vu la percée de la droite radicale de l'AFD et au contraire un recul assez sensible de Die Linke.
Je reçois un message d'un auditeur qui dit « La gauche radicale, c'est la vraie gauche ».
C'est-à-dire, d'abord, il n'y a pas une gauche radicale, il y a plusieurs sensibilités à l'intérieur des gauches radicales. Et puis, bien sûr, suivant les opinions que chacun des citoyens a, il peut considérer que c'est la voie empruntée ou au contraire l'ennemi le plus important, le courant de gauche le plus intéressant ou au contraire que c'est plutôt la social-démocratie ou les Verts, les courants de gauche le plus important. Donc, la vraie et la fausse gauche, ça ne veut rien dire du point de vue du politologue. C'est un point de vue qu'on peut avoir comme citoyen, mais d'un point de vue politologique, ça n'a pas de sens.
Les gouvernements, puisque vous parliez tout à l'heure de l'Espagne, vous parliez de l'Allemagne, on en reparlera certainement, mais les gouvernements traditionnels aujourd'hui, les gouvernements démocratiques, ont davantage de craintes à avoir de la poussée de l'extrême-gauche ou de l'extrême-droite aujourd'hui dans l'Europe d'aujourd'hui ?
Ça, je pense qu'il n'y a pas de doute. Ils ont beaucoup plus de crainte à avoir de la poussée des droites radicales qui se fondent sur une vision, je dirais, essentialiste de la nation et qui se fondent donc sur une division du monde assez dure, une vision du monde assez dure. Et quand on observe les mouvements en Europe du centre, en Europe du Nord en particulier, la pression des droites radicales est réellement très inquiétante. Elle est inquiétante à la fois, je dirais, pour les gouvernements, mais ça, ma foi, dans une démocratie, qu'un gouvernement soit en difficulté, ça fait partie du jeu de la démocratie, mais elle est inquiétante pour le destin des sociétés et pour le destin de l'Union européenne également.
Vous voulez dire qu'elle est aussi, elle est inquiétante en tant que telle et aussi à cause du risque, entre guillemets, hein, de contamination des partis traditionnels qui, d'une certaine façon, doivent parfois courir derrière les droites radicales pour s'assurer des réélections.
Absolument. Mmh. D'ailleurs, c'est même plus un risque, hein. C'est une observation qu'on fait dans certains cas. Si on suit, par exemple, le cours de la primaire pour les Républicains en France, on voit bien qu'il y a une forme de fuite en avant dans le chef d'un certain nombre de candidats qui, parfois, ont un discours qui est plus à droite sur certaines thématiques que le Front National de Marine Le Pen. Mais ce n'est pas toujours le cas. On a beaucoup parlé de l'Allemagne, on parle beaucoup de l'Allemagne depuis quelques jours. Mais là, justement, on a plutôt observé l'inverse, c'est-à-dire que la CDU et Angela Merkel en particulier ont, sur une question qui est au cœur du discours des droites radicales en général, tenu un discours et surtout mené une action qui est plutôt à l'encontre de ce que préconisent les droites radicales.
Les gouvernements démocratiques traditionnels, il y a moins de risques en fait de les voir courir derrière l'extrême gauche ou la gauche radicale, on va dire, que derrière la droite radicale.
Ouais, je dirais il y a quasiment pas de risque. En réalité, le problème majeur d'un point de vue politique pour une famille, c'est pour la famille social-démocrate. C'est-à-dire que, alors qu'elle l'a pu considérer après la chute du mur de Berlin en 1989 et la chute de l'Union soviétique en 1991, qu'elle était libérée d'une concurrence à sa gauche, en tout cas à sa gauche classique, cette concurrence a réémergé ou s'est développée de manière substantielle dans certains cas, au point parfois d'être complètement supplantée. On parlait de la Grèce tout à l'heure, aux élections en Grèce, Syriza fait 35-36%, le PASOK fait désormais 6 ou 7%. On le voit également, on parle de l'Allemagne, le SPD n'a fait que 28% aux dernières élections nationales, alors que Die Linke a fait 10%. Donc c'est plutôt un problème pour la social-démocratie que, je dirais, pour les gouvernements de manière plus générale.
En Espagne, par exemple, et on a eu l'occasion d'en parler ensemble, les partis traditionnels, historiques, avaient vraiment eu un coup dans l'aile, si on peut dire, lors des premières, dernières élections, puisqu'ils ont dû recommencer les scrutins. Et les nouveaux partis qui ont émergé de cette gauche radicale, finalement, n'ont pas répondu aux espoirs de ceux qui avaient voté pour eux. Et les choses se sont déglinguées. Et la situation de l'Allemagne, de l'Espagne pour le moment est d'être vraiment engluée dans une crise importante.
Mais l'Espagne est engluée dans une crise politique importante qui est, dans une large mesure, la résultante de la crise économique et sociale qu'elle connaît depuis 2008. Mais cette traduction en crise politique est vraiment devenue paralysante, puisque, comme vous le soulignez, il y a eu des élections en décembre 2015 qui n'ont pas pu permettre l'établissement d'un gouvernement. Des élections sont intervenues avant l'été, elles n'ont à ce stade pas permis l'établissement d'un gouvernement. Donc on est en Espagne dans une configuration où il n'y a plus de gouvernement de plein exercice depuis maintenant 9 mois. Et compte tenu du rapport des forces tel qu'il est sorti de ces deux élections, on ne voit pas comment un gouvernement pourrait naître aisément, et donc l'hypothèse d'une troisième élection n'est pas exclue. Alors après, la difficulté, c'est que il n'y a ni une majorité à droite ni une majorité à gauche, et qu'une majorité transversale est plus difficile en Espagne, qui a dans sa mémoire l'histoire de la guerre civile, et qui par ailleurs a des problèmes politiques propres soit au Parti populaire, soit au Parti socialiste ouvrier espagnol, qui rend plus complexe ce qu'on appelle une grande coalition, qui est aujourd'hui à l'œuvre dans plusieurs États. Des cas où ça arrive, comme l'Allemagne, c'est un gouvernement CDU-SPD. Des cas beaucoup plus rares, comme en Italie, où c'est un gouvernement entre le Parti démocrate et l'ancien Forza Italia.
Alors, on va revenir tout à l'heure, bien sûr, à l'histoire, bien sûr. Mais si on prend l'histoire très, très, très récente et la montée de ces gauches radicales en Europe, auxquelles vous consacrez donc votre livre, Pascal Deluit, on est pour le moment un peu dans la période anniversaire de la crise bancaire, financière de 2008. Est-ce que cette crise a quand même véritablement donné un coup d'élan aux gauches radicales en Europe ? Elles ont donné soit une nouvelle jeunesse à des mouvements qui existaient déjà, soit vraiment provoqué la création d'un certain nombre de mouvements.
Oui, absolument. Donc cette crise économique et sociale, financière d'abord, puis économique et sociale dans un deuxième temps, a complètement bouleversé à peu près tout. On parlait en première approche de la situation du TTIP, de la situation de l'Union européenne. Tout ça a été fortement affecté. Donc la crise économique et sociale a créé des bouleversements majeurs, des bouleversements politiques, des bouleversements sociaux. Beaucoup de drames, d'abord, soulignons-le, beaucoup de drames. Et bien sûr, nécessairement, il y a eu des répliques politiques. Des répliques parfois dans l'arène politique, mais parfois en dehors de l'arène politique. Les Occupy Wall Street aux États-Unis, les indignés en Espagne, et qui s'est dans un deuxième temps traduite dans la sphère politique avec la naissance, par exemple, de Podemos. Podemos est un parti qui s'est présenté pour la première fois. On a l'impression que c'est un vieux parti, mais c'est un parti qui s'est présenté pour la première fois aux élections européennes de 2014, c'est-à-dire il y a tout juste 2 ans, et qui a connu une ascension politique fulgurante et a décroché 20% des voix aux dernières élections. Donc ça, c'est un exemple quand même relativement rare, en particulier pour un grand État de l'Union européenne, d'un bouleversement majeur. Bien sûr, le cas le plus emblématique, c'est la Grèce, où Syriza, qui existait sous une forme autour de 4 à 5%, est devenu, en l'espace de 3 ans, de 2012 à 2015, le premier parti de la Grèce est celui qui délivre aujourd'hui le Premier ministre et le gouvernement pour l'essentiel.
Alors on parle, Pascal Lévy, de gauche radicale, mais c'est un terme un peu générique en réalité, hein, qui recouvre des options assez diverses selon les lieux, selon les époques aussi. En tout cas, c'est la gauche de la gauche, c'est l'extrême gauche, c'est ce qui est à gauche de la social-démocratie et des Verts. On peut résumer comme ceci.
Oui, c'est ça. Donc on peut le résumer comme étant, je dirais, tous les courants politiques à la gauche de la social-démocratie et de la famille des partis verts. Et bien sûr, tout ce qui est à sa gauche recouvre des réalités très différentes. Parfois, je dirais, c'est une inclination plus à gauche, mais pas manifestement beaucoup plus à gauche, comme on peut l'observer, par exemple, dans les pays scandinaves. La Ligue de gauche en Finlande se déclare à la gauche de la social-démocratie, mais par exemple, réfute le terme de gauche radicale. En revanche, vous pouvez avoir des partis qui restent toujours dans un modèle de révolution socialiste. C'est l'exemple du Parti communiste grec, par exemple, hein, pro-soviétique, sans union soviétique, ou dans une large mesure du Parti communiste portugais. Et puis vous avez ce qu'on pourrait appeler une gauche radicale qui n'a quasiment plus de référence au mouvement communiste historique et qui a, je dirais, des visions et des approches un peu nuancées, mais qui est quand même dans une perspective d'exercer le pouvoir avec des partis aussi différents que Syriza, que Die Linke en Allemagne ou que Podemos en Espagne ou par exemple le bloc de gauche au Portugal.
Une question de Quentin sur Facebook qui dit justement, quelle différence entre ce que l'on appelle une gauche radicale et le communisme ? Car, dit Quentin, on présente souvent un vote pour l'extrême gauche plus soft qu'un vote pour l'extrême droite en oubliant ce que le communisme a produit comme horreur en URSS. Fin de citation de Quentin.
Je dirais que de 1917 à 1989, hein, pour être schématique, le communisme a principalement incarné ce qu'on appelle aujourd'hui l'espace de la gauche radicale. Aujourd'hui, postérieurement à 1989, les partis de la gauche radicale dont le référent est encore le mouvement communiste sont vraiment minoritaires. Oui. C'est-à-dire qu'il y en a, c'est le cas du Parti communiste portugais, du Parti communiste grec, dans une certaine mesure du PTB. Mais pour l'essentiel, la plupart des grandes formations de gauche, Die Linke en Allemagne, certaines formations en Scandinavie et dans le sud de l'Europe, Podemos, Syriza ou le bloc de gauche sont des partis dont l'identité, le parcours, les objectifs sont traités indépendamment de l'histoire du mouvement communiste et même parfois dans une forme de rejet de ce mouvement, de cette histoire du mouvement communiste.
On parlait il y a quelques instants, et puis je vais vous faire part d'une réflexion de Olivier, de Paul, aussi de Philippe qui se manifeste, mais on parlait des intitulés et des termes gauche de la gauche, extrême gauche, qui est à gauche de la social-démocratie et des Verts. Mais le problème de définition, c'est vrai qu'il est réel parce que les curseurs politiques, comme on l'a dit à un moment donné, bougent. C'est-à-dire que parfois la droite tire vers l'extrême droite, la gauche vers le centre, et du coup l'extrême gauche et se situe plutôt à gauche. Quand on entend Jean-Luc Mélenchon, il dit que lui, il est à gauche parce que le PS français est à droite maintenant.
Oui, mais ça, vous savez, dans l'histoire, en fait, les termes de gauche et de droite, initialement d'ailleurs, sont des termes qui se lient mutuellement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de gauche sans droite et de droite sans gauche. Donc il y a une évolution des composantes qui se revendiquent de la droite et de la gauche en fonction de leur évolution réciproque. Deuxièmement, ils réfèrent parfois à des choses différentes, c'est-à-dire que aujourd'hui, en gros, la gauche, c'est des courants politiques qui se réfèrent au clivage socio-économique, mais en réalité, il n'y a pas que le clivage socio-économique dans la société, la division socio-économique. Il y a historiquement et de manière contemporaine d'autres divisions, comme par exemple en Belgique, la division philosophique, ce qui fait que si vous lisez sur l'histoire de Belgique, vous verrez qu'au XIXe siècle, les libéraux se qualifient de gauche, les catholiques les qualifient de gauche, et quand le Parti ouvrier voit le jour, on parle des gauches, des libéraux et du Parti ouvrier belge. Donc, il y a une évolution dans le temps. Je dirais, dans la période contemporaine, il y a principalement la gauche social-démocrate, les gauches radicales, c'est-à-dire des sensibilités à sa gauche, mais qui recouvrent des choses différentes, comme dans une certaine mesure, aujourd'hui, la gauche social-démocrate recouvre des réalités assez différentes, hein, entre le discours du SMER en Slovaquie, du Parti socialiste français du Parti socialiste en Belgique ou des travaillistes britanniques aujourd'hui, vous verrez d'énormes différences et d'énormes points de vue très, très distincts.
Olivier, qui nous dit il y a une réédition de ce qui se passait avant la guerre en Europe, notamment en Allemagne, dit-il, opposition entre extrême gauche et extrême droite et au milieu une démocratie molle. Aujourd'hui, une démocratie chancelante, une montée de l'extrême gauche et de l'extrême droite. Et il dit comment un politologue conseille-t-il d'éviter que ce scénario se répète ? Voilà. Des conseils pratiques demandés par Olivier.
Je crois qu'il y a effectivement des parallèles qu'on peut faire avec la période précédant la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire une forme de crise financière, de crise économique, de crise sociale, une forme de traduction en termes d'exacerbation politique et sociale, c'est tout à fait évident. Après, il faut être prudent aussi parce que cette période d'exacerbation dans les années 30 est aussi liée au terme des négociations postérieurement à la Première Guerre mondiale, qui ne sont pas bien sûr présents aujourd'hui. Mais je dirais que